VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mardi 31 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, les ADF ont tué 20 autres personnes dans une nouvelle attaque à Beni.
Au Mali, plusieurs enquêtes ont été ouvertes après la disparition de civils interpellés par l'armée dans le centre du pays.
Côte d'Ivoire, l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé dit avoir été condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne.
En Somalie, les Chebabs revendiquent l'attentat à la voiture piégée de samedi qui a fait 81 morts, dont deux ressortissants turcs à Mogadiscio, la capitale.
Réunion urgente de la Ligue arabe sur la Libye après la signature de deux accords de coopération entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli.
Les États-Unis défendent leurs frappes aériennes de dimanche ciblant une milice pro-iranienne en Irak et en Syrie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Nouveau massacre en RDC, 20 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque du groupe des forces démocratiques alliées à Beni, dans l'est de la RDC. Une information confirmée par l'administrateur du territoire, les précisions de John Linden.
L'administrateur du territoire de Beni, Donat Kibwana, affirme qu'il y a eu incursion des ADF à Petinasana dans la nuit de dimanche à lundi. Ces ADF ont tué à l'arme blanche 18 civils. Nous avons suspendu la fouille à cause de la nuit, poursuit-il, et deux autres corps ont également été retrouvés, portant le bilan à au moins 20 morts. Les recherches devraient reprendre ce mardi. Dans cette attaque, plusieurs maisons ont été incendiées. Les autorités ont pourtant été alertées depuis dimanche soir sur la présence d'hommes suspects à l'ouest d'Oicha, regrette Teddy Kataliko, l'un des responsables du réseau des organisations de la société civile de Beni. Nous continuons à demander aux forces armées de la RDC d'également lancer les opérations du côté ouest afin d'épargner les civils, a-t-il ajouté. Depuis le 28 novembre, le chef d'état-major des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala, s'est installé avec son équipe à Beni. Un autre général d'armée, John Numbi, inspecteur général des forces armées de la RDC et proche de l'ex-président Joseph Kabila, a été envoyé en renfort quelques jours après. Mais depuis le lancement le 30 octobre des opérations militaires contre leur fief, les ADF ont tué plus de 200 civils, selon un décompte d'organisations locales de la société civile.
Au Mali, ouverture de plusieurs enquêtes, dont une par la Division des droits de l'homme de l'ONU, et ce après la publication d'informations faisant état de la disparition de plus de 20 civils interpellés par l'armée dans le centre du pays. Michel Joseph.
Les informations qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, imprécises et parfois contradictoires, mettent en cause l'armée malienne. Dans un communiqué, les forces armées maliennes ont indiqué qu'une de leurs patrouilles avait interpellé des suspects à Maliemana le 19 décembre, mais qu'ils avaient été ensuite libérés. Des rumeurs font état de la disparition de ces civils. Selon un habitant de Dioura, l'incident s'était produit le 26 décembre et non le 19. Les corps retrouvés sont des habitants de Maliemana qui partaient pour la foire hebdomadaire. Certains disent 26, mais moi j'ai vu 24 corps qui ont été sortis du puits. Il y a plusieurs ethnies parmi les victimes. Je ne connais pas les auteurs de ce crime, a déclaré cet habitant Amadou Balobo. Les autorités maliennes ont dépêché des enquêteurs de la gendarmerie. Elle n'a trouvé ni puits ni corps, soutient l'armée. La Division des droits de l'homme de la Force des Nations Unies au Mali a elle aussi ouvert une enquête, a indiqué un diplomate, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.
Côte d'Ivoire, l'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, a annoncé avoir appris sa condamnation à 20 ans de prison par la justice lors d'une audience lundi à Abidjan. La condamnation de M. Blé Goudé survient après un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, ancien allié du président Ouattara, que la justice ivoirienne accuse de complot. Le point avec Jean-Roger Bion.
Selon M. Blegoudé, joint par l'AFP à La Haye, où il est en liberté conditionnelle après son acquittement par la Cour pénale internationale CPI, la justice ivoirienne l'a condamné par contumace à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Le tribunal a en outre délivré contre lui un mandat d'arrêt. M. Blegoudé s'est dit surpris par ce verdict, prononcé sans la présence d'un avocat. Il était accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol, avait indiqué ses avocats le 18 décembre, jour où son procès devait s'ouvrir. L'annonce de la condamnation de M. Blegoudé survient 8 jours après le début de l'affaire Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne des années 2000 et ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement en France, est visé par un mandat d'arrêt international de la justice ivoirienne qui l'accuse de complot et d'avoir préparé une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. L'opposition a dénoncé mardi des dérives dictatoriales du pouvoir ivoirien.
Les islamistes somaliens Shebab ont revendiqué hier l'attentat à la voiture piégée de samedi contre un poste de contrôle de Mogadiscio, attentat qui a fait 81 morts, dont 2 ressortissants turcs. Selon un de leurs porte-parole, l'attentat ciblait ce qu'il a appelé un convoi de mercenaires turcs et les miliciens apostats qui les escortaient. Il a accusé la Turquie de chercher à conquérir la Somalie et d'avoir pris le contrôle de toutes ses ressources économiques. La Turquie est l'un des principaux donateurs et investisseurs en Somalie, un pays avec lequel elle entretient des relations historiques.
À la demande du Caire, la Ligue arabe tient ce mardi une réunion urgente sur la situation en Libye. Elle se penchera sur les 2 accords de coopération que le gouvernement de Tripoli a signés avec Ankara et qui constituent une préoccupation pour l'organisation panarabe. Irénée Herman Umbo.
La réunion de la Ligue arabe se tiendra au niveau des délégués permanents pour examiner l'évolution de la situation en Libye et les risques d'escalade qui pourraient menacer la stabilité du pays et de la région. La Libye est aujourd'hui déchirée entre 2 autorités, le gouvernement d'union nationale GNA à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans l'est du pays. Fin novembre, la Turquie a signé 2 accords avec le GNA. L'un porte sur la coopération militaire et l'aide que la Turquie pourrait apporter au GNA dans sa lutte contre les troupes du maréchal Haftar. Et le second porte sur la souveraineté maritime. Il permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale, riches en hydrocarbures, aux grandes dames de la Grèce, de l'Égypte, de Chypre et d'Israël. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a récemment dénoncé toute velléité de mainmise sur la Libye voisine. Nous n'autoriserons personne à contrôler la Libye. C'est une question qui relève de la sécurité nationale de l'Égypte, avait indiqué M. Sissi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis défendent leurs frappes aériennes de dimanche contre une milice appuyée par l'Iran en Irak et en Syrie, avertissant qu'ils pourraient frapper encore, et ce, malgré les critiques d'officiels irakiens, dont le premier ministre Adel Abdul Mahdi, et les nouvelles menaces proférées par la milice elle-même. Nous n'allons pas laisser l'Iran s'en tirer en attaquant par force interposée les intérêts américains, a déclaré hier un haut responsable du département d'État. Il a qualifié de défensive ces frappes qui ciblaient les brigades du Hezbollah et ont fait au moins 25 morts et des dizaines de blessés. Elles faisaient suite à l'attaque à la roquette de vendredi contre une base militaire irakienne qui a coûté la vie à un sous-traitant américain près de Kirkuk, dans le nord de l'Irak.
Ici, aux États-Unis, un homme accusé d'avoir poignardé 5 personnes dans la maison d'un rabbin samedi lors d'une fête juive a été inculpé lundi par l'État fédéral américain de crimes motivés par la haine, les procureurs révélant sa sympathie pour le nazisme et Adolf Hitler. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement ghanéen se dit déterminé à rejoindre l'Éco, la monnaie ouest-africaine qui remplacera le CFA dès l'année prochaine dans 8 pays de la région. Toutefois, le Ghana exhorte l'UEMOA à abandonner le rattachement prévu de l'Éco à l'euro. En adoptant l'Éco, le Ghana pourrait devenir la plus grande économie du bloc devant la Côte d'Ivoire. Le Ghana possède sa propre monnaie, le CEDI, et ne fait pas partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, composée principalement d'anciennes colonies françaises qui utilisent le franc CFA. Les Ghanéens sont convaincus que l'Éco éliminera les barrières commerciales et monétaires. Les autorités égyptiennes ont approuvé l'acquisition par l'américain Uber pour 3,1 milliards de dollars de son rival régional Karim. Le service américain de transport en commun a accepté de réduire les dommages causés aux concurrents. L'accord devrait être conclu en janvier 2020. Karim deviendra une filiale à part entière d'Uber, mais continuera à fonctionner comme une marque indépendante avec une gestion indépendante. Pour terminer, le Soudan et l'Égypte vont exploiter un réseau électrique commun à partir du 12 janvier. L'agence de presse égyptienne MENA, qui cite le ministre égyptien de l'énergie, indique que le projet s'étend sur 1000 km et coûte près de 32 millions de dollars. Le réseau électrique a une capacité de 50 mégawatts.
Les sports à présent avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Les frères Pogba se mobilisent pour la Guinée.
L'international français et milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, et ses frères jumeaux ont organisé un match de charité pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'éducation en Guinée. Quelques 10 000 personnes étaient réunies au stade de la Vallée du Cher à Tours dimanche après-midi pour ce match de gala opposant d'anciens joueurs de l'équipe de Guinée comme Titi Camara, à une sélection dans laquelle figurait l'international algérien de Montpellier, Andy Delort, ou encore la footballeuse de l'équipe de France, Awa Sissoko. Paul Pogba n'a pas joué, mais a participé au spectacle depuis la touche.
Arbitrage, la VAR doit se limiter aux erreurs claires et évidentes, selon l'IFAB.
Oui, l'assistance à l'arbitrage vidéo VAR ne devrait être utilisée pour inverser une décision de l'arbitre central qu'en cas d'erreur claire et évidente, a estimé le secrétaire général de l'International Board, IFAB, hier lundi, après des polémiques concernant l'utilisation de la VAR en Angleterre. Ce week-end, Norwich, Brighton, Sheffield United, Wolverhampton, Brighton et Crystal Palace se sont vus refuser des buts pour hors-jeu après l'intervention de la VAR, parfois sur une marge si minime que la fiabilité de la technologie a été remise en question. Certains entraîneurs regrettent que la VAR ait prévalu sur une décision arbitrale prise à l'œil nu et à la vitesse. Depuis début décembre, le président de l'UEFA, Alexander Seferin, avait appelé l'International Board à clarifier l'usage de la VAR, en citant notamment l'exemple du hors-jeu et des mains.
Le portier du FC Barcelone, Ter Stegen, indisponible, tout comme la pépite brésilienne Arthur Melo, absent 3 semaines.
Le gardien allemand du FC Barcelone, Marc Ter Stegen, est indisponible pour une durée indéterminée, tandis que le milieu brésilien Arthur sera absent environ 3 semaines, a indiqué le club hier lundi.
Dans les transferts, le prodige norvégien de 19 ans, Haaland, s'engage avec Dortmund jusqu'en 2024.
Le buteur du RB Salzbourg, Erling Braut Haaland, a été recruté par Dortmund jusqu'en juin 2024, a annoncé le Borussia dimanche. Le transfert est estimé à 20 millions d'euros par Bild, qui précise que le prodige devient meilleur marqueur de la phase de poule de la Ligue des Champions avec 8 buts, disposé d'une clause libératoire dans son contrat avec le club autrichien.
Todibo sur le départ du Barça vers l'AC Milan.
L'AS Milan et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le prêt du défenseur français Jean-Claire Todibo en Lombardie. Le joueur de 20 ans arrivé en Catalogne lors du mercato hivernal il y a un an pourrait rejoindre les Rossoneri dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat de 20 millions d'euros, d'après la Gazzetta dello Sport.
En Angleterre, David Moyes, prêt à donner son maximum pour réussir à West Ham.
Oui, le nouvel entraîneur écossais de West Ham, David Moyes, a assuré lundi, au lendemain de sa nomination, qu'il ferait son maximum pour que l'équipe soit performante et ainsi faire durer l'aventure. L'écossais visera le maintien des Hammers en Premier League, actuellement 17e, à seulement un point du premier relégable, mais avec un match à moins. Et avec toi, les résultats de la NBA pour clôturer.
Atlanta et Orlando 101 à 93. Washington et Miami 123 à 105, Milwaukee et Chicago 123 à 102, Minnesota et Brooklyn 122 à 115, Utah et Détroit 104 à 81, Phoenix et Portland 122 à 116.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Situation préoccupante des médias au Burundi où le parquet de Bubanza dans le nord-ouest du pays a requis lundi 15 ans de prison à l'encontre de 4 journalistes du journal privé Iwachu et leur chauffeur. Les 5 avaient été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils tentaient de couvrir une incursion de rebelles burundais venus de la RDC voisine. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Bruxelles Antoine Kaburahe, directeur de publication du journal Iwachu.
On leur reproche de s'être rendu à Musigati, semble-t-il, dans le but d'aider les rebelles. Pourtant, les journalistes se rendaient sur terrain pour vérifier les informations qui faisaient état d'une attaque. Et les journalistes n'avaient même pas encore eu le temps de travailler. Les journalistes ont fait ce que font les bons professionnels quand il y a des informations sur une attaque. Ils vont sur terrain. Ils se sont rendus à Musigati vers midi, alors que les attaques s'étaient déroulées dans la nuit et à l'aube. Donc ils ne peuvent pas être complices des attaques qui se sont déjà passées.
Antoine, quelles preuves ont été retenues contre eux?
Le ministère public avance, semble-t-il, un message que la journaliste Agnès Ndirubusa aurait échangé avec un correspondant de La Voix de l'Amérique. Et ce message disait, Agnès lui disait qu'elle se rendait à Musigati pour épauler les rebelles. Mais c'était vraiment, c'est même risible. C'était purement une blague, de l'humour noir, comme les journalistes le font très souvent. Tout ça n'est pas une preuve, ne peut pas constituer une preuve. Ce qui nous a aussi étonnés, à côté du réquisitoire très sévère, 15 ans, c'est aussi que le ministère public demande que même le matériel des journalistes soit réquisitionné pour être mis à la disposition de l'État, comme patrimoine de l'État. La voiture, l'appareil photo, les enregistreurs, les téléphones, on trouve que c'est scandaleux.
Vous-même vivez en exil, quelles nouvelles vous parviennent de la vie des médias au Burundi aujourd'hui?
Écoutez, c'est très compliqué, mais bon, Iwachu existe depuis 11 ans, et jusqu'ici, nous avions pu traverser toutes les crises, parce que nous sommes un média indépendant, professionnel. On ne travaille pas pour un parti politique, pas pour une idéologie quelconque. Et jusqu'ici, tout se passait très bien. Et je persiste à croire que le ministère public va se rendre compte que ces accusations ne tiennent pas du tout, ne tiennent pas la route. Les journalistes se rendaient sur terrain pour faire de l'information équilibrée, pour recouper, pour recueillir des témoignages, comme nous le faisons depuis 2008 au Burundi.
Antoine Kaburahe, directeur de publication du journal burundais Iwachu, joint à Bruxelles.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Aussi, en République démocratique du Congo, la population de l'espace Fizi-Itombwe réclame justice dans les massacres perpétrés il y a 21 ans à Makobola et dans le sud Kivu en général. Par ailleurs, une réflexion a été lancée pour la mise en place d'un centre panafricain de transformation des conflits au cours de la commémoration du 21e anniversaire des massacres de Makobola. Le point avec Ernest Mouhero.
C'est pendant la commémoration du 21e massacre des Makobola que ces appels et réflexions ont été lancés. Les participants en majorité habillés en noir en signe de deuil sont venus des quatre coins du monde pour se remémorer ces moments douloureux. Pour Philippe Undji, notable des Makobola vivant à Kinshasa, il s'agit de rompre les silences autour de ces massacres.
Pendant que les gens préparaient les fêtes, les forces du mal ont envahi le peuple dans les églises, dans le champ et dans les différentes réunions. 21 ans après, nous avions pensé qu'il était important de se souvenir de ceux-là qui sont tombés, afin que maintenant ensemble, nous puissions projeter l'avenir, notamment en travaillant sur la transformation des conflits, en vue d'effacer les tristes mémoires de l'histoire au profit des efforts de développement.
Pendant la commémoration, plusieurs délégations ont pris la parole pour condamner la mort de plus de 700 personnes à Makobola et proposer des mécanismes de prévention des massacres. Le professeur Obedi Nyamanjoku, qui coordonne la cérémonie, a insisté sur la poursuite des bourreaux et la réparation des victimes.
C'est un devoir de mémoire qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui ont été tués ici et que la justice soit rendue. C'est que nous ne voudrions pas que, en fait, ces massacres puissent se perpétuer. Nous voulons une cohabitation pacifique avec toutes les communautés. Mais il n'y aura pas cette cohabitation pacifique sans que la justice soit rendue. Et il n'y aura pas de vraie justice si la vérité n'est pas dite.
Une rescapée du massacre, Janine Toumainia, regrette d'avoir perdu des êtres chers et témoigne des difficultés au quotidien pour subvenir aux besoins des enfants survivants des massacres.
Parmi nous, il y a beaucoup de veuves et orphelins et nous vivons une vie sans espoir. Personnellement, j'ai 6 enfants. Chacun se débrouille comme il peut depuis que je suis abandonnée à moi-même. Ces enfants n'ont pas pu faire des études. C'est pénible qu'on nous aide à élever et à encadrer nos pauvres orphelins.
À l'occasion, l'évêque du diocèse d'Ouvira a rappelé à tout un chacun l'amour du prochain recommandé par le Christ et les ministres provinciaux de l'Intérieur a déposé une gerbe de fleurs au mausolée construit en mémoire des victimes des massacres. Le ministre Lobanjilwa Singabo.
Nous traînons beaucoup de plaies qui ne sont pas soignées, qui peuvent donner l'impression d'être guéries alors qu'elles ne le sont pas, tout simplement puisqu'il y a des étapes qui ont été escamotées. Il faut continuer à agir et chacun dans les limites de ses pouvoirs.
Des séries de témoignages pour la plupart à visage masqué et voix déformées ont cristallisé l'atmosphère, rappelant des atrocités jusqu'alors impunies commises au moment de la rébellion du Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD, encadré selon les dires des témoins par l'armée rwandaise. De Makobola à plus de 100 km de Bukavu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Crise sur le programme nucléaire nord-coréen, la Maison-Blanche dit qu'elle envisagera des moyens autre que la diplomatie, pour répondre à la Corée du Nord si celle-ci exacerbe de nouveau la tension et met à exécution sa menace d'adresser à Washington, et je cite, un cadeau de Noël non spécifié. Reportage d'Arash Arabasadi, repris ici par Timothée Donangmaï.
Un cadeau surprise aux États-Unis pour Noël. C'est ce qu'a récemment promis Kim Jong-un. De l'avis des experts, cette vague menace traduit la frustration du leader nord-coréen par rapport à l'impasse dans les négociations sur le nucléaire de son pays. Pour sa part, le président Donald Trump semble s'amuser de la menace nord-coréenne, spéculant sur la nature du cadeau surprise promis par Kim Jong-un.
Voyons, peut-être que ce sera un beau présent. Peut-être qu'il m'enverra un beau vase au lieu d'un essai de missile. Je pourrais bien recevoir un vase de sa part. On ne sait jamais.
Des cadeaux pas si beaux que cela pourraient aller d'essais de missiles de longue portée ou d'essais nucléaires souterrains au lancement d'un satellite dans l'espace, avertissent les spécialistes. Dimanche, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, l'ambassadeur Robert O'Brien, a loué la diplomatie personnelle du président Trump en direction de son homologue nord-coréen.
Kim Jong-un a promis de dénucléariser la péninsule coréenne. Nous voulons qu'il tienne cet engagement. Sinon, nous avons d'autres moyens en tant qu'États-Unis et nous en ferons usage si nécessaire.
Toutefois, le prédécesseur d'O'Brien, l'ambassadeur John Bolton, fait partie de ceux qui estiment qu'il n'y a aucune probabilité que la Corée du Nord procède à sa dénucléarisation. Qu'à cela ne tienne, l'ambassadeur O'Brien affirme que le président Trump a donné à Kim Jong-un diverses options durant les pourparlers entre les deux pays. La voie glorieuse vers un destin similaire à celle de la Corée du Sud ou celle qui mènera la Corée du Nord vers les sanctions et l'isolement vis-à-vis de la communauté internationale. La Corée du Nord a conduit 13 séries d'essais de missiles à courte portée et de pièces d'artillerie en 2019, des actes dont le président Donald Trump a minimisé la portée.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Pour terminer, la Saint-Sylvestre au Mali, cette année, la crise sécuritaire et économique qui pèse sur le pays se fait ressentir davantage dans l'organisation des fêtes dans les familles. Beaucoup n'ont pas les moyens et, pour certains, le climat sociopolitique ne se prête plus aux grandes célébrations. Des mesures sécuritaires sont prises par le gouvernement pour le bon déroulement des fêtes. Kassim Traoré revient sur les préparatifs de la Saint-Sylvestre à Bamako.
Nettoyage par-ci, coup de pinceau par-là. C'est l'ère des grandes toilettes dans les bars et autres espaces de loisirs à Bamako. Dans les marchés, les clients ne se bousculent pas, tout comme dans les salons de coiffure Tutti Beauté.
Vous-même, vous voyez dans le salon, il n'y a pas assez de clientes. Maintenant, nous, on fait plus poser les perruques. C'est une seule fois, quoi. Donc, il suffit pour elles seulement de donner un coup de main. Donc, ce n'est plus la peine de venir au salon. Donc, du coup, ça porte un coup dur à notre marché. Donc, cette année, bon, c'est pas comment on va préparer, on va fêter, mais bon, on essaierait de faire quand même de notre mieux pour être dans la joie, dans la gaieté.
Dans les rues de Bamako, chacun y va de sa méthode pour préparer la Saint-Sylvestre, mais avec des fortunes diverses.
En fait, moi, pour l'instant, je n'ai rien prévu pour les 30. Déjà, j'ai 40 à 45 ans, donc je pense que la fête, c'est pour les enfants, quoi. Tu vois, avec l'insécurité aussi, c'est pas bon d'aller en ville pour aller faire.
En ce qui concerne la fête du 31 décembre, bon, nous laissons ça aux enfants. Moi, je vais fêter en Casanier, j'ai fait avec ma famille dans la maison. On va manger et puis boire légalement. Voilà, c'est fini.
Dans les Grand City Boy de Djelibougou, Abdraman Doukouri et ses amis cotisent pour les réveillons de fin d'année. Mais cette année, ils fêtent en famille.
Et les choses sont dures maintenant. Le panier de la ménagère n'est vraiment pas à la hauteur. Mais voilà, comme c'est une seule nuit là, on préfère rester à la maison et fêter. Je sais que contrairement à l'année dernière, les gens avaient un peu d'argent. Mais cette année, ce n'est pas trop. Comme auparavant, parce que tout le monde sait que ça ne va pas trop. Il n'y a pas d'argent. Les gens se plaignent de beaucoup de choses.
La famille Diallo organise une réception. Mais dans la nuit du 31 décembre, madame est programmée à son service.
Déjà, je suis inquiète parce que je suis face à une situation. Le 31 décembre, mon mari invite des amis à la maison. Et alors que le 31, je suis programmée au boulot. Donc, je serai obligée de me réorganiser pour pouvoir accomplir la mission au niveau du bureau et à la maison aussi, faire tout pour mieux accueillir les invités la nuit du 31 décembre.
Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre a réuni les patrons de la sécurité à Bamako, décidé de la conduite à suivre. Le général de division Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
Depuis quelques années, le gouvernement interdit régulièrement l'utilisation des pétards pendant cette période-là. Je voudrais encore insister que cette année encore, c'est interdit. Je voudrais également rappeler les parents pour les enfants qui utiliseraient des motos et faire en sorte que ces enfants-là soient protégés. Ceci étant, des dispositions vigoureuses sont prises déjà depuis quelques jours. Elles seront amplifiées jusqu'au jour de l'an. Et donc, il y aura beaucoup d'éléments supplémentaires qui seront dans les rues, en civil, en moto, dans les véhicules et même les chiens seront mis à contribution à l'intérieur des villes et sur les grands axes.
La fête dans la prudence, c'est le souhait des autorités. C'est là à cause de la situation sécuritaire du pays. Un pays engagé dans la lutte contre le terrorisme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.